Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciades et bienvenue dans votre émission Page à page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Fabienne Ferrer. Bonjour Fabienne.
Bonjour Claire.
Avec qui je vais parler de son dernier roman, Car voici que le jour vient, aux éditions de Noël. Un roman historique, policier, captivant, dont je parle avec elle dans quelques instants. Mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos pour vous signaler que demain, vendredi 19 février, de 19h30 à 22h, à la maison des associations Arnaud Bernard, qui se situe 3 rue Escoussière à Toulouse, aura lieu une lecture de poèmes en français, arabe et tamazite. J'espère que je n'ai pas écorché le mot. L'ouverture de cette soirée sera faite entre autres par Francis Pornon, qui est auteur toulousain. Il était venu nous présenter ses deux livres ici à Page à Page, et par Abdelmajid Kawa. Et puis ensuite, ce sera place à une scène ouverte avec partage de vos poèmes et ceux de vos auteurs préférés et à partager avec le public. L'entrée est libre, donc vendredi 19 février à partir de 19h30. Ensuite, dimanche 28 février à 16h, à la médiathèque José Cabanis, au grand auditorium au Red Jardin, un conte dans le noir. Alors c'est pour un public à partir de 12 ans, l'entrée est libre là aussi. C'est accessible aux malvoyants, non-voyants, mais aussi bien sûr à tous les autres. Ce sont deux artistes qui se relayent et nous emportent dans une histoire faite de légendes, de récits contemporains, de chants, de danses et de rythmes issus de l'improvisation. Ce spectacle est un voile qui se lève sur un moment intime de la vie d'une femme, puisque le titre d'ailleurs est très évocateur, c'est le rendez-vous amoureux. C'est un petit peu après la Saint-Valentin, mais enfin bon, on est toujours en février, le 28. Alors la durée du spectacle, c'est 1h15, donc venez nombreux, c'est dimanche 28 février à 16h, juste avant la rentrée des classes. Et puis je termine cette page d'infos pour vous dire qu'Hélène Dufaux, auteur toulousaine, elle était venue nous présenter à Marana en janvier dernier, vous propose un atelier d'écriture qui va se situer à 7 au bord de la mer. Ça s'appelle 7 à écrire, et donc c'est un atelier sur un week-end, celui du 13 et 14 mars prochain. Tout y est organisé, l'hébergement, les repas, l'atelier d'écriture bien sûr, mais aussi une visite de 7. Par contre, l'inscription est à faire avant le 1er mars auprès d'Hélène Dufaux directement, dont je vous donne les coordonnées, soit le 09 52 83 22 85 ou son portable 06 70 22 02 99. Tu connais Hélène Dufaux?
Oui, j'ai lu Marana.
À Marana.
Et j'ai beaucoup aimé.
D'accord.
Page à page, Claire Ambille.
Poupoupitou. Voilà, nous revoilà donc avec Fabienne Ferrer et son livre « Car voici que le jour vient » aux éditions de Noël, comme je vous le disais il y a un instant. Alors on va te présenter un petit peu, Fabienne, tu es originaire d'Oran.
Oui.
Mais donc tu es toulousaine d'adoption depuis de nombreuses années, après être passée par la Bretagne,
l'Alsace. Voilà, et finalement les parents ont établi leur camp du côté de Toulouse. Voilà.
Du côté donc, de Toulouse.
Ça fait, je suis toulousaine d'adoption.
D'adoption, comme beaucoup de gens qui vivent à Toulouse, voilà. D'ailleurs. Alors, ensuite, tu es professeur de philosophie. C'est une belle matière à enseigner, je trouve. Enfin, moi, ça me rappelle que des bons souvenirs, en tout cas, personnellement. Ah oui. J'avais un prof vraiment exceptionnel. Et puis, c'est une matière qui, ma foi, me convient bien. Ça convient peut-être pas à tout le monde, mais... Donc, professeur de philosophie. D'ailleurs, je trouve que dans le livre, on retrouve des fois un petit peu cette sagesse, ces petites phrases un peu... à réflexion, quoi, finalement. On retrouve
Alors c'est vrai que...
Involontairement, peut-être.
Ça, c'est une déformation professionnelle, sans doute.
Oui.
Mais bon, quand, je sais pas, mon héros, Gilles Bayonne, s'interroge sur le sens de la vie,
oui,
etc.
Oui, tout à fait. Ou que Picklune sort des choses.
Oui, voilà. La réflexion, enfin, c'est vrai que là, ce qui est intéressant dans le roman, c'est qu'on le met sous forme de roman. Par exemple, la question du mal, qu'est-ce qu'un humain est capable d'infliger à un autre humain, tout ça.
La douleur, la mort aussi.
Voilà, le rapport à la mort, etc.
Alors, professeur de philosophie, donc là, tu es en vacances.
Exactement.
Voilà, avec plein de copies à corriger pour la rentrée, m'as-tu dit. Et puis donc, l'arrivée à l'écriture, donc tu écris et tu lis donc depuis toute petite. Hein,
ouais.
Donc la lecture, en fait, a commencé, le point de départ, c'est Hector Malo avec Sans famille.
C'est mon entrée en littérature, dans le chaudron de littérature, à cause d'une expression qui était une noisette de beurre.
Qui est du livre Sans famille.
Voilà, qui est une figure du livre. Et quand j'ai compris ce qu'était une noisette de beurre, une noisette, c'est tout petit, qui exprimait toute la misère.
Ouais.
J'en ai pleuré et ce jour-là, je suis rentrée en littérature. Voilà.
Voilà. Il y en a qui rentrent dans les ordres. Toi, tu es rentrée en littérature. Et puis, donc, l'écriture, tu as toujours écrit. Hein,
j'ai toujours eu
un
crayon à la main. Quoi. C'est une sorte de. C'est ma manière d'être au monde, quoi. Voilà. Donc, je capte tout par l'écrit.
Tu écrivais des histoires à ta petite sœur.
Voilà. J'écris des tas de nouvelles, des histoires à ma sœur. Et puis, voilà, on écrit depuis toujours, et puis à un moment où on s'en rend même pas compte, l'arbre est prêt, le fruit tombe, et voilà, et ça a donné un premier roman écrit comme ça, Un chien du diable.
En 2006, en 2006, édition de Noël.
Voilà, tout à fait.
Voilà, donc on y vient justement, voilà, donc Un chien du diable, une enquête de Gilles Bayonne, hein, puisque c'est marqué en dessous, hein, pour situer. Et donc, voilà, c'était en 2006 chez De Noël, donc t'as envoyé comme ça ton manuscrit et bingo, ça a fait
mouche. Le conte de fées.
Le conte de fées. Qui se réalise. Et donc voilà, et après tu viens de réitérer donc avec Car voici que le jour vient. Donc là, c'est en 2009, hein, il est sorti,
oui.
Là, à la rentrée littéraire, entre guillemets, hein, de 2009, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Novembre,
octobre-novembre, 2009.
Oui, voilà, ouais. Octobre. Et donc, mais ce qu'il y a de bien, voilà, c'est qu'il faut préciser que ce sont deux livres qu'on peut lire séparément, même si les personnages peuvent être récurrents dans le premier, donc dans le second, par rapport au premier, ils peuvent se lire séparément.
Oui.
Indépendamment, voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt pratique.
Oui, ben c'est le principe de l'enquête, quoi. Enfin,
oui. Donc voilà. Après, il y a des petites allusions, voilà, du premier roman, mais bon, on peut tout à fait. Alors, donc, ce livre-là, c'est un gros livre, hein, mais il ne faut pas que les lecteurs se laissent impressionner. Ça se lit très vite parce que il est captivant. Le suspense est là pratiquement jusqu'aux dernières pages. Et donc, 400 pages, 15 chapitres, mais ça se lit comme vraiment très, très, très facilement. Et donc, 400 pages donc, qui se lisent à vitesse grand V de par le suspense qui est présent vraiment à chaque page et dès les premières pages. D'ailleurs, on va le voir quand on va parler un petit peu de l'histoire. Et puis, donc, on va peut-être situer un petit peu l'époque, les lieux, les personnages.
Oui.
Alors, l'époque.
Alors, l'époque.
1595.
Voilà, 1595.
16e siècle, donc.
16e, cheval 16e, 17e. Voilà, on est sous Henri IV, qui est roi de France depuis peu. Enfin, depuis un certain temps, mais il a fallu qu'il confirme son trône en faisant la guerre. Hein. C'est une époque assez troublée. On est encore dans les guerres de religion. Enfin, on en sort à peine. Et voilà, l'action se situe dans le vieux Paris.
Voilà, donc le lieu, voilà, donc c'est le Paris, voilà. Paris de cette époque, le vieux Paris, alors avec le quartier du Châtelet, de la Grande Boucherie, de la Vallée de Misère.
Oui.
Parce qu'effectivement, il y a une grande misère qui règne.
Oui, alors c'est un quartier de Paris, du côté du Châtelet, la vallée vieille misère, hein, ou la vallée de la misère. Hein. Et c'est un lieu, effectivement, qui. Alors déjà, le nom me parlait. Découvert qu'un quartier comme ça s'appelait Vallée Vieille Misère, j'ai tout de suite voulu placer l'action là.
À cet endroit-là.
À cet endroit-là. Mmh. Et puis en plus de ça, c'est à côté du Châtelet. Qui est en même temps prison, qui est la morgue, qui est l'endroit où on torture les prisonniers, enfin quand on les soumet à la question, comme on disait à l'époque.
Et la place de grève n'est pas loin, là où on mettait
la place de grève n'est pas très loin. Et en même temps, c'est le royaume des bouchers, avec des rues au nom poétique telles que rue de l'écorcherie, etc. Donc, c'était un quartier...
Oui, puis c'est très bien décrit hein, dans le livre, les rigoles de sang. Enfin, voilà, on patauge dans le sang parce qu'ils viennent d'écarrir une bête.
Il y a des tonneaux où il y a des tripes chaudes. Il y a des foulons pas très loin également. Enfin,
c'est très bien retranscrit, je trouve, toute cette ambiance, toute cette... je trouve même, on pourrait dire, même toutes ces odeurs, toutes ces visions, enfin, toutes ces choses, on y est vraiment quand on lit.
Mais moi, j'avais envie d'une réalité qu'on...
Ah, mais c'est une réalité.
Voilà, qu'on sente, qu'on touche. Je voulais que ce soit très tactile, quoi, très charnel.
Mais c'est tout à fait... Le pari a été réussi, Fabienne, parce que quand on est dans le livre, on est vraiment dans le pari 1595, avec donc tout ce qu'on vient de dire, les odeurs, les visions donc de tout ça, quoi, de toute cette vie, de toute cette misère hein, aussi, des fois, parce qu'il y a aussi beaucoup de pauvreté hein, avec les enfants. Ils travaillent en fait, ils ramassent, ils écument la boue en fait, ils filtrent la boue pour récupérer des petites.
C'était un métier, des mômes de 3, 4, 5 ans avec des tamis, et puis la boue parisienne est célèbre et elle sera célèbre jusqu'au 19e. Ils tamisent la boue pour récupérer éventuellement des petits morceaux de cuivre, des petites piécettes. Et ensuite qu'ils revendent aux ferrailleurs.
Oui, en plus, donc la vie est dure, hein, ça commence jeune, hein, les tout petits.
Oui, mais la vie est très dure. Il
n'y a pas l'école, c'est réservé.
Oui, la vie est très dure. Par exemple, les enfants, 16e, 17e, tous les matins, on ramasse des cadavres à Paris.
Ah ouais.
Et pendant les hivers, c'est par dizaines. Donc, c'est très, très dur.
Et donc, en plus, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a les différents corps de métiers qui sont évoqués, avec donc des métiers comme par exemple tire-laine, hein, c'est les voleurs.
Les tire-laines, c'était les voleurs.
À l'arraché un peu, non ?
Oui, c'est ça, les tire-laines, c'est ceux effectivement qui se faufilaient les jours des marchés, etc. Ils coupaient une bourse. Ça, c'est les tire-laine. Il y a également un personnage qui est ramasseur de crottes.
Et
généralement, ils se trimballaient avec des seaux, soit ils avaient des chiens attelés.
C'est le cas avec Mouche.
Avec Mouche,
chienne,
qui est un personnage du roman.
Tout à fait.
Et ensuite, ils les revendaient aux mégisseries parce qu'on préparait les cuirs avec des crottes.
Alors, il y a aussi les chirurgiens barbiers. Le chirurgien barbier qui est l'ancêtre de notre dentiste.
Voilà, ancêtre du dentiste.
Et qui fait toujours aussi peur, d'ailleurs, qui fait peur à Piquelune dans le livre et qui fait toujours aussi peur à beaucoup de gens actuellement. Hein, d'aller chez le dentiste, c'est jamais... On y va toujours avec du recul. Hein, on a envie de...
Chirurgien barbier,
ça s'appelait à l'époque.
L'ancêtre du médecin.
Voilà, médecin chirurgien.
Il
faisait un peu tout.
Il faisait un peu tout. Ouais.
Il y a beaucoup de métiers comme ça où il faut un petit peu.
Ça va se spécialiser.
Alors les personnages, on en vient aux personnages. Justement, il y en a certains qui sont attachants, d'autres qui sont repoussants, faut le dire, qui sont assez... Alors le personnage principal est donc récurrent, c'est Gilles Bayonne, le chevau léger, émissaire du roi, et qu'on imagine séduisant. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin moi quand j'ai lu le livre, je me suis dit, oh, Gilles Bayonne, ça doit être un
bel homme.
Un bel homme. Ah oui, c'est ce que je me suis dit.
Je ne l'imagine pas trop.
Imaginer.
Voilà, après, c'est marrant parce que j'ai des retours. Quelqu'un le voit comme...
Ils te disent la même chose.
Quelqu'un... Ah. Alors, c'est marrant parce que les femmes le voient plutôt comme un type plutôt séduisant.
Oui, voilà.
Il est dit dans le roman qu'il a une cicatrice qui lui barre la joue, etc.
Une cicatrice n'est pas forcément signe de laideur.
Non. Et puis, y en a d'autres qui lui voient plutôt une gueule cassée. Mais moi, je trouve qu'il a... Alors, je ne sais pas s'il est séduisant. Moi, je lui trouve beaucoup de charme, quoi.
Oui. Et puis, apparemment, son charme fait effet. Auprès des femmes, auprès d'une certaine femme dans le livre. Alors, il y a aussi son fidèle Picklune, hein, son aide de camp, qui est le petit feu follet plein de facéties et de vivacité, un peu avec cette force solaire, parce qu'en plus, Picklune, il est tout roux. Hein.
Oui.
Il est roux avec des taches de rousseur, donc il incarne vraiment le soleil et puis cette vivacité.
Oui, Picklune, c'est un petit gamin qui doit avoir 12 ans, 13 ans.
Qui a été recueilli.
Qui a été recueilli par Bayonne, ancien Tirlaine lui-même, ancien petit voleur élevé dans la rue. Et Picklune, effectivement, c'est vraiment, quand tu parles de force solaire, c'est ça. C'est vraiment une sorte de rayon de soleil. Et ça m'a permis, en particulier dans cette deuxième enquête qui est très noire, de contrebalancer la noirceur.
La noirceur par ce côté justement un peu coloré et puis solaire.
Solaire de Picklune.
Tout à fait. Alors après, il y a d'autres personnages. Hein. Bon, ces deux-là sont vraiment, on va dire, les principaux, entre guillemets. Hein. Après, bon, il y a la vieille nourrice Joséphine, la nourrice de Gilles Bayonne, mais qui s'occupe beaucoup de Picklune. Il y a le chancelier Cheverny, hein, qui confie une mission à Gilles Bayonne, justement. Il y a Toussaint Gerbeau, moi que j'ai bien aimé, un peu le sorcier solitaire et peu bavard. Il y a aussi la vieille Louisette et ses fantômes. Il y a Madame Bertille et son mari orfèvre et plus qu'avare. Voilà. Donc ça, c'est les personnages qui, moi, j'ai bien aimé. Mais il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Et puis, alors l'histoire, je raconte un petit peu l'histoire à nos auditeurs. Le chancelier Cheverny, donc comme je disais, confie deux missions à Gilles Bayonne. La première, c'est élucider des vols mystérieux chez les nantis, donc du quartier de la Grande Boucherie.
Oui.
La deuxième, c'est le meurtre atroce, qu'on commence par un meurtre, hein, bien sûr, le meurtre atroce du père Vuillard, qui sera suivi, bien sûr, hein, d'autres meurtres, aussi atroces d'ailleurs que le premier. Et le livre, donc, raconte cette enquête, cette double enquête, et son dénouement, dont on ne parlera pas ici, hein, il faut laisser le suspense au lecteur, et donc et ils auront le suspense, hein, parce que jusqu'aux dernières pages, moi je n'ai pas trouvé le fin mot de l'énigme. Je l'avoue, je le dis ici à l'antenne, je n'ai pas trouvé le fin mot de cette histoire. Donc j'imagine que, comme tu le disais, donc pour faire ce livre avec donc Paris au XVIe siècle, enfin 1595 exactement, j'imagine qu'il faut faire des recherches sur le vieux Paris, sur le vieux français aussi, parce qu'il y a beaucoup d'expressions et puis de mots en vieux français également.
Oui. Pour le vieux Paris, la Bible, c'est Paris au XVIe d'un historien qui s'appelle Bablon. C'est un ouvrage remarquable, très complet. Donc là, on trouve tout. On est vraiment dans le vieux Paris. Et sinon, sur les expressions, j'ai fait un gros travail de recherche. Et puis ensuite, une fois qu'on se chauffe dans cette langue du 16e, on finit par penser dans la langue du 16e. Il y a des expressions qui viennent. C'est une langue qui est très verte, très imagée, très plastique.
Ah oui,
plastique.
C'est très imagé, c'est plein d'images.
Et donc,
hein,
on se met à écrire, je sais pas, par exemple, des sauts attachés à leur sottise comme un âne à sa queue.
Bon, oui, voilà, c'est des choses.
Bon, ça, c'est des choses qui viennent, c'est des petits bonheurs de.
Et c'est de l'époque.
Enfin, non, ça, c'est pas de l'époque.
Ça, c'est pas de l'époque.
Non, ça, c'est pas de l'époque. C'est des petits bonheurs d'écriture. Mais bon, ça aurait pu être une expression du 16e.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi donc peut-être des recherches aussi sur la Bible, sur la religion. Alors, je rassure les auditeurs, ce n'est pas du tout un livre avec de la religion à chaque page, ou des passages de la Bible à chaque page. Mais il y a quand même, et on va le voir, le titre, ne serait-ce que le titre, car le voici que le jour vient, va s'expliquer au chapitre 4, justement, par un verset de la Bible. Donc, il y a peut-être eu aussi des recherches. Dans ce sens,
parce que
bon, enfin, moi qui suis vraiment une ignare de la Bible, c'est vrai que j'imagine qu'il faut un petit peu creuser.
Oui, le premier mort, c'est donc un
prêtre.
Un prêtre. Et effectivement, car voici que le jour vient, qui est extrait du livre de Malachi de la Bible.
Donc c'est la première phrase.
Ça donne son titre au livre. Et c'est vrai que c'est en 1595, ils sont très
Ah oui,
croyant.
La religion est très primordiale.
Voilà,
hein,
est très prégnante. Il y a la peur du diable.
Oui, tout à fait.
Et donc,
on peut même brûler. Enfin, on peut même mettre à mort par rapport à
sorcellerie.
Les
gens qui respectaient pas le carême, etc. Enfin, c'était vraiment.
Oh bah, la vie était dure. Hein.
C'était très respecté.
C'est très bien retranscrit dans le livre. Donc le titre donc s'explique donc voilà avec un passage donc de la Bible. Il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup plu, qui est en prélude du roman, une phrase de Léonard de Vinci. Le poids d'un petit oiseau qui s'y pose suffit à déplacer la terre. Moi, je trouve cette phrase, voilà, elle me plaît cette phrase.
Ça a été le départ.
Le point d'intuition du livre.
J'avais aucune idée encore de ce que serait la deuxième enquête de Gilles Bayonne. J'ai lu par hasard cette phrase de Léonard de Vinci et en la lisant, quelque chose s'est passé en moi. Et ensuite, j'ai commencé à écrire. Alors, ce qui est très, très étonnant, c'est que, effectivement, c'est devenu cette phrase le fil directeur du livre, l'oiseau, quoi. Enfin,
donc, d'ailleurs, on commence le livre avec, entre autres, enfin, il n'y a pas que ça, mais enfin, avec un oiseau.
Oui.
Au milieu, il y a aussi des oiseaux.
Et on termine.
Et on termine avec un oiseau.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est très étonnant parce que.
Voilà, moi, j'ai rien prémédité. Moi, j'écris, j'ai pas de plan, etc. Et en fait, on a l'impression que l'histoire est déjà là et que le travail de l'auteur, c'est simplement de la sortir de terre.
De la mettre sur papier.
Et de la mettre sur papier, de travailler la phrase, quoi. Alors, c'est un gros boulot, hein. C'est deux ans et demi de boulot.
Deux ans et demi,
on a l'impression que l'histoire, les personnages, ils sont là, ils existent. Il faut juste aller à la rencontre de ces personnages.
Et donc le prologue, justement, on rentre vraiment dans le vif du sujet rien qu'avec le prologue hein, du livre, avec le meurtre donc du père Vuillard, comme je disais, qui a été donc dévoré vivant par des rats.
Oui.
Hein, donc voilà, donc ça commence fort, hein, très fort. Puis il y aura d'autres meurtres hein, tout aussi atroces que ceux-là, hein, avec l'intermédiaire d'animaux, hein, puisque le meurtrier se sert d'animaux.
D'animaux, oui, tue par bestioles interposées.
Voilà, voilà, mais c'est assez atroce. Hein, donc, mais ça, non, mais ça,
oui.
Non, mais c'est pas gore, hein, je rassure les auditeurs, hein, c'est pas gore du tout, mais c'est, voilà, il y a de l'imagination. Mais quelque part, comme je disais tout à l'heure, ça va aussi avec l'époque. C'est une époque assez. La vie est dure, c'est encore l'époque, bah, forcément, où on pend, on écartèle, on roue sur la place de grève. La vie est difficile, on se tue même dans la rue, comme tu le disais, tous les jours, il y avait un cadavre dans la rue. C'est des choses. Quelque part, le livre, voilà, et les meurtres vont bien avec,
avec
l'époque. Alors, il y a du vieux français, comme on le disait tout à l'heure, avec des expressions. Il y a de la philosophie aussi, je le disais, avec une certaine sagesse, quand par exemple Bayonne parle de Piquelune et qu'il parle de lui en disant et ses sentences de vieillard dans la bouche d'un enfant. Parce que Piquelune, il aime bien, il dit des choses, des fois, qui sont d'une grande sagesse pour un enfant de 14, 12, 13 ans.
12-13 ans. Hein. Mais c'est un petit môme qui a été, qui s'est élevé dans la rue, donc qui a acquis une certaine maturité, qui a reçu des coups très tôt.
Par expérience.
Direct, et puis en même temps, c'est, je crois que Piquelune, c'est une sorte de surdoué, quoi. Enfin...
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Alors aussi, de la sagesse aussi, quand Gilles Bayonne confie sa grande douleur à la vieille Louisette. Et puis qu'il dit « Suffit-il de nommer sa peine pour s'en libérer ?» C'est une vaste question. Hein, nous n'y répondrons pas ici, à Radio Occitanie maintenant, mais c'est un vaste débat là aussi. Et puis il y a aussi, comme par exemple, quand Piquelune parle à Bayonne des talents de voleur, du fameux voleur mystérieux, et de sa ruse qui est pratiquement impossible à réaliser et qui pourtant l'est, Gilles Bayonne lui répond « De l'inédit plutôt, car l'impossible souvent n'est qu'une possibilité à laquelle nous ne songeons point, aveuglés que nous sommes par nos habitudes. » Là, je crois que c'est une phrase qui est, universellement et intemporelle. Elle peut même encore maintenant, l'impossible, effectivement, ce n'est que...
souvent, quelque chose à quoi on ne se mange pas, c'est de l'inédit. Oui,
voilà. Et puis il y a encore, moi ce sont des phrases que j'aime bien, alors c'est pour ça, hein, je les cite, c'est personnel, c'est mon goût personnel. Hein. Et quand Bayonne décide de suivre la trace du nombre et qu'il dit il n'existait pas de droit chemin, juste des mauvaises directions qui, une fois écartées, indiqueraient peut-être la route à prendre. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est... Il n'y a pas de droit ou de pas droit chemin. En fait, il faut juste écarter les différentes...
Les mauvaises directions.
Les mauvaises directions pour éventuellement trouver la bonne...
Oui. Ben, c'était un peu...
C'est très sage, là, aussi.
C'était de perdre le lecteur dans les méandres de l'enquête, de la même manière que oui. Bayonne se perdait
ça,
lui-même.
Ça, c'est réussi.
Voilà,
hein,
dans les méandres de l'enquête, et puis les méandres de l'âme aussi, parce que ça renvoie,
oui,
cette enquête renvoie
sûr.
Bayonne à un drame personnel.
Tout à fait.
Et
tout
donc,
à fait.
Cette
qui
idée.
Qui a eu lieu donc dans le premier roman.
Qui a eu lieu dans le premier roman.
Voilà.
Et bon, cette interrogation, cette quête, j'avais envie de la faire vivre au lecteur également.
Il y a de l'humour aussi dans ce livre, hein, avec des expressions très imagées, on le disait, hein, tout à l'heure, comme celle de l'orfèvre avare, le mari de Dame Bertille, qui aurait écorché un pou pour en avoir la peau et 1000 pour s'en faire un manteau. On imagine tout à fait l'avare fini, quoi. C'est de l'action aussi, avec bien sûr des bagarres à l'épée, hein, puisque à l'époque des épées, des dagues, même de gourdins. Hein. Et puis de l'amour aussi, avec par exemple la belle Juliane ou Dame Bertille également, hein, qui sont des personnages, des héroïnes donc, de ce roman. Et puis donc du mystère, comme je disais également, et du suspense à gogo et jusqu'à la fin. Et puis aussi un trésor avec des pièces d'or inconnues. Donc ça, là aussi, ça fait travailler l'imagination. Hein. De l'émotion aussi, avec le fantôme, comme on le disait, de Gilles Bayonne, hein, l'émotion, donc allusion au roman précédent, et puis aussi quand Picquelune va être en danger, hein, il va quand même être très très en danger, Picquelune,
oui,
à un moment,
oui,
dans ce roman,
oui.
Et donc on craint
pour sa vie,
on craint pour lui, on
oui,
craint
oui,
pour
oui.
lui.
Il est un peu malmené, oui.
Donc c'est vraiment un livre vraiment captivant, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, où on vit à fond cette plongée dans un siècle passé, dans cet univers de l'époque, et si bien reconstitué, hein. Moi je trouve que c'est vraiment très très bien écrit, et puis cette énigme policière donc bien mystérieuse, avec des personnages hauts en couleur et en honneur, hein, parce que le sens de l'honneur à l'époque c'était quelque chose aussi,
oui.
Hein, voilà. Et quand on les quitte, à la fin du livre, moi, j'ai éprouvé une certaine nostalgie, puis un certain dépaysement. Hein. On se retrouve là, voilà. On est un peu dépaysé, un peu nostalgique de quitter tous ces personnages, ce Paris de cette époque. Et on se demande forcément, eh bien, à quand le prochain ? quand va-t-on pouvoir lire la prochaine enquête de Gilles Bayonne ?
Alors, pas tout de suite, parce que le deuxième donc, m'a demandé 2 ans et demi de travail.
Oui,
les
oui,
terres sont un peu asséchées,
oui.
Donc là, elles sont en jachère. Hein, mais là, je suis en train je suis sur le troisième, et je pense que ça me demandera à peu près autant de travail que pour le 2, c'est-à-dire 2 ans à peu près
donc
de travail.
Donc, on se verra dans 2 ans avec une nouvelle enquête
on
de Gilles Bayonne.
Voilà, à peu près, voilà, à peu près. Et bon, je pense que je vais faire voyager, quoi.
Oui, pourquoi pas le faire venir dans
voilà.
La ville rose. Elle existait aussi à cette époque-là, la ville rose.
Voilà, le premier c'était Rouen, le deuxième Paris, le troisième,
voilà,
sera peut-être le Périgord.
Oui, voilà, la région.
La région.
Notre
sans
région.
Sans doute, mais bon, point d'interrogation, parce que les personnages font vraiment ce qu'ils veulent. Donc,
ah oui, c'est eux qui font.
C'est
et toi,
eux qui
tu
font,
ne fais
moi,
que écrire.
Voilà, moi je tiens la plume.
Tu es leur messagère.
Moi, je suis.
Ben, merci beaucoup,
avec
Fabienne.
Avec plaisir.
Donc,
merci
je rappelle
pour l'invitation.
Le titre. Ben, merci d'être venue. C'est un très, très bon livre, « Car voici que le jour vient » de Fabienne Ferrer aux éditions de Noël, que je recommande chaleureusement à nos auditeurs. Et puis leur dire que la semaine prochaine, je recevrai Luce Rostol pour son livre « L'Algérie à l'ombre de Maria » édité aux éditions NEL, Nouvelles Éditions Loubatière. On se quitte en écoutant un petit morceau de musique qui va tout à fait bien avec l'époque du livre, 16e siècle, hein, 1595, Paris, on écoute. Et Adicia, c'est bonne semaine.
Au revoir.